Prions, chers amis, avant de voir ce psaume 24 ensemble. Ta parole nous dit, Seigneur, de nous enseigner à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Que cela soit le cas, Seigneur, aujourd'hui, que tu nous aides à bien compter nos jours, à avoir des bonnes priorités, à mieux connaître qui tu es pour pouvoir te rencontrer au dernier jour. Que tu sois avec nous par ton esprit, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, jeudi, nous étions 14 personnes. Chers amis, il y avait deux pasteurs, il y avait 5 membres de la famille, il y avait un voisin, il y avait un ami de l'église, il y avait 3 personnes des pompes funèbres et il y avait 2 membres du personnel du cimetière. La cérémonie a eu lieu en plein air. Cela a duré à peu près 20 minutes, comme Samuel l'a dit. Ensuite, le cercueil a été enterré. Pendant la cérémonie même, la vie continuait autour de nous, comme si rien n'a été. Il y avait des voitures qui passaient. Il y avait des ouvriers du cimetière qui mangeaient leurs tartines dans un coin. 81 ans de vie, une cinquantaine d'années de travail, une cinquantaine d'années d'appartenance à une église locale, et ça termine comme ça. Une heure plus tard, et la pelleteuse a recouvert le trou avec de la terre, et nous sommes tous rentrés chez nous, et nous avons repris nos vies respectives. Oui, c'est vrai, Jacques est décédé dans un contexte très particulier de COVID-19 qui nous prive de cette possibilité de nous rassembler pour rendre hommage à quelqu'un qui est parti. Jacques aussi avait déjà perdu sa femme et son fils. Sa relation la plus proche en Belgique, c'était sa nièce. Et comme il y avait un problème avec son bus ce jour-là, elle n'a pas pu arriver pour la cérémonie. Mais peu importe, Jacques ou qui que ce soit d'autre, après tout ce temps sur terre, que cela termine ainsi, c'est dur, vous savez, terriblement dur, si nous n'avons pas d'espérance solide après cette vie terrestre. Car on est confronté à ces moments-là, à la vanité de notre existence humaine. C'était pourquoi toutes ces 80 ans, si cela termine ainsi. Je pense que la nostalgie, on ose espérer que lorsque nous mourons, le monde s'arrête, au moins pour un petit temps, pour marquer notre passage sur terre, pour souligner à quel point tout le monde nous manquera, à quel point nous avons pu contribuer à ceci ou à cela. Mais même les plus renommés parmi nous, nous sommes vite oubliés, les amis. Oui, peut-être l'un ou l'autre de nos exploits continue à être connu pour certains d'entre nous, mais c'est très vite le cas qu'il n'y a plus personne qui se souviendra de nous personnellement. Cela, c'est la réalité. La Bible dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière, que l'homme est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Le psaume 24 est un psaume qui tourne notre regard vers Dieu. Ce n'est pas un psaume qui met en avant ce que le Seigneur peut faire pour nous, ni ce qu'il veut de nous. Souvent, nous ouvrons, je pense, la Bible, et c'est ça notre premier réflexe, n'est-ce pas? Comment concrètement, Seigneur, tu veux que je vive? Ce n'est pas forcément mauvais, ce réflexe-là. Mais ce psaume met en avant qui est ce Dieu, le Seigneur. Si ce n'est que la parole de ce Dieu, pour continuer la citation de 1 Pierre chapitre 1, qui dure éternellement, alors notre connaissance de ce Dieu se révèle se relève de la plus grande importance pour chacun d'entre nous. De pouvoir nous présenter devant ce Dieu de manière convenable une fois que nos 80 ans terminent. Cela passe vite, nous dit le psaume 90. Nous nous envolons, d'après la citation biblique. Alors, cette question « Qui est Dieu ?» est en fait une question très pratique pour chacun d'entre nous. Nous présenter devant Dieu en ayant une compréhension fautive, cela aura des conséquences pratiques pour l'éternité. Alors, psaume 24, qu'apprenons-nous de Dieu? Trois choses. Je pense que la structure du psaume est relativement simple. Versets 1 et 2, il est créateur. Versets 3 à 6, il est saint. Et versets 7 à 10, il est glorieux. Trois choses donc à propos de Dieu. C'est sur lui que David dirige notre regard dès le départ. À l'Éternel, verset 1, la terre et ce qui la remplit, le monde et ce qui l'habite. Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Ces versets soulignent, et c'est ceci notre premier point, son autorité en tant que créateur. Son autorité en tant que créateur. C'est à l'Éternel, à lui, qui appartient tout ce monde matériel, physique. Mais c'est à lui également qu'appartient tout ce qui est vivant sur cette terre. Ce qu'il a rempli, les animaux, les êtres vivants, les êtres humains, ceux qui l'habitent. Pourquoi? Car, verset 2, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Ici, ce n'est pas une description technique ou scientifique de comment Dieu a créé le monde. C'est une affirmation que le responsable pour tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce qu'il y a dans notre monde physique, aussi grand, aussi petit qu'il soit, inanimé ou animé, cela vient de Dieu. Tout est à lui, car tout vient de lui. Cela nous rappelle les jours de la création, n'est-ce pas? Le troisième jour, dans le récit de la Genèse, Dieu crée à partir des eaux la terre ferme. Et le sixième jour, qui est parallèle avec le troisième jour dans ce récit, il crée tout être vivant qui vit sur la terre, y compris l'homme, créé à l'image de Dieu. Le Dieu donc de la Bible n'est pas un petit Dieu régional qui trouve sa place dans un panthéon de différents dieux qu'il y avait à l'époque. Non, ce Dieu, c'est le Dieu universel, souverain. Un seul, unique Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans l'Ancien Testament, la mer symbolise le désordre parce que ça faisait peur, comme la mer continue à faire peur pour des marins expérimentés qui savent ce que c'est d'être seul, confronté à des vagues immenses, imposantes. L'Éternel est celui qui contrôle le chaos, qui donne de l'ordre, qui permet que nous vivions avec une attente raisonnable que la terre va continuer à circuler autour du soleil, que la lune continuera à circuler autour de la terre, qu'il y aura encore cette nuit, la nuit, et demain le jour, les saisons, et ainsi de suite. L'Éternel est responsable pour tout cela. Et donc, oui, le psalmiste nous pousse à reconnaître l'autorité de Dieu en tant que créateur, la bonté de ce qu'il a créé d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle les chrétiens se gardent d'être ce qu'on appelle des ascètes, ceux qui se privent de certains plaisirs terrestres, matériels, afin de tendre vers une perfection spirituelle. Peut-être vous avez entendu parler de différentes techniques proposées sur le marché spirituel aujourd'hui. C'est d'ailleurs parfois des chrétiens eux-mêmes dupés par un langage très spirituel qui commettent cette erreur. Imposer des exercices de pénitence, des privations, des mortifications, c'est de penser que le mal en nous est lié à notre corps physique. C'est une erreur. Le mal en nous dans le monde est lié à notre cœur. Ce n'est pas par la privation de bonnes choses qu'on atteint une harmonie et une paix avec l'Éternel. Je pense que c'est à Luther qu'on attribue ce dicton. J'ai cherché pour voir où est-ce qu'il disait ça, mais je n'ai pas trouvé. Mais il a dit apparemment ceci. On peut retirer le moine du monde, mais c'est plus difficile de retirer le monde du moine. C'est vrai. Le problème de l'homme n'est pas des facteurs externes de lui-même, mais internes. D'ailleurs, le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, cite ce psaume pour assurer des chrétiens qu'ils peuvent manger toute viande qui se vend au marché, même si auparavant cette viande avait été consacrée aux idoles, sans devoir se soucier de l'origine de cette viande, parce qu'en soi, toute viande vient de Dieu. Dieu a l'autorité sur le monde, car il est le créateur de ce monde. Comment donc faut-il s'approcher de ce Dieu? La deuxième chose que nous apprenons de Dieu aujourd'hui, sa sainteté en tant que Dieu qui demande nos cœurs. Sa sainteté en tant que Dieu qui demande nos cœurs. La question au verset 3 se pose. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Cela évoque d'abord le mont Sinaï, où Dieu est apparu dans toute sa sainteté, là où le Seigneur s'est révélé par l'intermédiaire de Moïse au peuple de Dieu. Mais cela évoque aussi, dès le temps de David, l'arche de l'Alliance et le tabernacle, le lieu saint qui se trouvait à Jérusalem, à Sion. Et qui peut s'approcher de ce seul unique Dieu qui est saint? La réponse est peut-être surprenante pour nous. N'importe qui peut se présenter devant ce Dieu unique et saint, mais non pas n'importe comment. Oui, nous pouvons nous approcher de Dieu, ce n'est pas impossible, mais la façon par laquelle nous devons le faire n'est pas comme on pourrait imaginer. C'est souvent la réponse qu'on entend de la part des religieux à cette question, c'est que nous nous approchons de Dieu à travers le rituel. C'est d'établir un rite, un rituel qui convient pour le Dieu que nous adorons. Pourvu donc qu'on fasse ce rituel-là, alors cela me rendra pur aux yeux de ce Dieu. Nous sommes dans la période du Ramadan pour des musulmans. C'est l'un des 5 piliers d'islam. Cela détache le croyant, selon la pensée musulmane, de ce monde physique pour nous concentrer sur Allah. Mais d'autres religions ont leur rite externe auquel le croyant doit participer pour être pur aux yeux de Dieu. Je pense aux fêtes juives pour le peuple d'Israël. Je pense à la messe pour des catholiques. C'est ce moment sacré qui permet le maintien de la relation entre l'homme et Dieu. Et si on est protestant, même si nous rejetons formellement le rituel, nos pratiques peuvent quand même prendre une forme d'un rite. Que ce soit assister au culte, si on est plus conservateur dans nos goûts, que ce soit ressentir la présence de Dieu à travers la louange, si nous sommes plus charismatiques, que ce soit le parler en langue, si nous sommes plus pentecôtistes. Oui, oui, je caricature, mais il y a du vrai dans ce que nous disons là. Notre instinct, c'est de penser que c'est le rite qui fait l'affaire avec Dieu. Mais le rite, quel qu'il soit, ne rend pas Dieu aveugle à notre sujet. On lisait, si vous avez suivi la lecture quotidienne cette semaine, le psaume 50 où Dieu dit par rapport au sacrifice offert, « Si j'avais faim, je ne le te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. » Ce que Dieu cherche, le psalmiste ici, au psaume 24 nous dit, ce sont quatre choses qu'il souligne au verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines. Celui qui ne jure pas pour tromper. S'approcher de Dieu, Dieu demande un cœur dédié à lui, dévoué à lui. Une vie entière consacrée à lui, non pas simplement une petite fenêtre de notre vie présentée ponctuellement à lui via le rituel. Nous sommes, depuis plusieurs semaines, nous sommes devenus depuis plusieurs semaines des amateurs de Zoom. J'espère que vous connaissez maintenant comment fonctionne Zoom. Et ce que j'aime avec Zoom, je l'ai dit cette semaine d'ailleurs à un moment donné, c'est que cela ouvre une petite fenêtre à la vie chez soi pour chacun d'entre nous. On voit peut-être des bibliothèques derrière ou des belles plantes comme celle-ci. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est une belle plante. On voit d'autres sur des canapés. On voit ce qui est parfois affiché sur le mur. On voit la salle à manger. Et ainsi de suite. Mais c'est souvent, si nous sommes une fenêtre contrôlée, n'est-ce pas? Avez-vous, comme moi, dû réfléchir à ce que les autres voient dans cette fenêtre? J'ai dû trouver une photo de mon mariage pour que ça ait l'air d'être un endroit très beau chez moi. La question, lorsque je vois le chouette petit coin que vous nous montrez chez vous, c'est est-ce que cela représente bien le restant de votre maison? Car Dieu voit tout. Il n'est pas aveugle aux autres salons, aux autres pièces de notre vie. Et il demande de nous tout ce que nous avons et non pas juste une petite fenêtre. Une orientation donc vers ces cas de vie dédié à ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur veut. Quelqu'un donc qui ne livre pas son âme aux choses vaines, qui court à la poursuite des idoles de ce monde, aux dépens de ce que Dieu nous demande. Quelqu'un qui ne jure pas pour tromper, de ne pas donner des assurances sans avoir l'intention de respecter notre engagement lorsqu'on parle. Quelqu'un donc qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même. Ceux-là, dit le psalmiste, peuvent s'approcher de Dieu. Ceux d'une conscience donc tendre, en écoutant ces versets, comprendront à tort que Dieu donc demande la perfection dans notre relation avec lui. Qu'en est-il de moi? C'est le danger qu'on posera cette question-ci. Je n'ai pas les mains innocentes. Je n'ai pas le cœur pur à tout moment. Mais au verset 5, on voit que ces personnes, dont parle le psalmiste, reconnaissent toutefois que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Ce n'est pas qu'elles méritent la bénédiction. Ces personnes reçoivent la justice de Dieu. Dieu est le Dieu de leur salut. Ils ont besoin du salut. Ces personnes, verset 6, cherchent Dieu, se sont tournées vers lui. L'orientation de leur vie n'est plus contre Dieu. Non, ils cherchent, comme faisait Jacob, la bénédiction de Dieu. Les béatitudes de Jésus dans l'évangile de Matthieu commencent avec Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais il continue, Jésus, au chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il cite donc notre verset ici, car eux, ils verront Dieu. Un trait de caractère de ceux qui ont donc le cœur tourné vers Dieu, c'est qu'ils se rendent compte de la pauvreté d'esprit. Donc ce n'est pas que nous devons être parfaits pour être en relation avec Dieu. Non, pour recevoir ce que Dieu nous donne, nous nous tournons vers lui. Nous marchons dans ses voies. C'est bien cela, ce qu'on appelle la repentance. Jeudi dernier, Samuel l'avait dit, tantôt nous avons étudié 1 Pierre chapitre 4, là où Pierre décrivait le chrétien devait adopter une pensée, une attitude qu'il a fini avec le péché. Non pas qu'il ne péchait plus, mais la direction de sa vie s'est réorientée autour de la volonté de Dieu et non pas autour de notre propre volonté. Le Seigneur, voyez-vous, il a toute autorité en tant que créateur. Et par conséquent, en tant que Dieu saint, il demande nos cœurs consacrés à lui. Samedi dernier, pas hier, mais il y a 8 jours, il y avait le concert virtuel One World Together at Home, un monde tous à la maison. Il y avait beaucoup d'artistes connus qui ont participé à partir de chez eux pour une levée de fonds pour l'Organisation mondiale pour la santé. Et l'un des moments culminants de ce concert, c'était la performance du chant La Prière de Céline Dion avec Andrea Bocelli qui chante en italien. C'était magnifique, c'était beau la mélodie. Il y avait Lady Gaga et d'autres qui ont participé avec eux. Et si d'un côté on veut applaudir que dans un tel contexte avec des millions de spectateurs, ils chantent une prière, d'un autre côté, force est de constater que la prière n'est qu'un reflet de notre temps. Que ce soit là notre prière, ils chantaient. C'était en anglais, mais je vous donne la traduction. Nous te demandons une belle vie et que d'en haut tu veilles sur nous. Nous espérons que chaque âme trouvera une autre âme à aimer. Tout comme un enfant, nous avons besoin d'un lieu sûr. Guide-nous par ta grâce. Donne-nous la foi afin que nous soyons en sécurité. Le présupposé de ce chant, c'est que chacun peut s'approcher de Dieu comme il le souhaite. Aucune mention dans ce chant, dans cette prière de Dieu, de ce qu'il aime, lui, de sa sainteté. Si Dieu est là, ben, il est là pour me donner ce que je veux au plus profond de mon être, de trouver selon mes critères, à moi, l'amour que je veux accorder à un autre, la sécurité que je cherche. Et bien entendu, avec une belle mélodie, on est vite emballé par ce sentimentalisme. Mais le psaume 24 nous donne une autre mélodie, un autre chant. Et ce chant a du contenu solide. Dieu veut, le psaume 24 nous dit, tout ce que nous sommes. De faire autrement, chers amis, juste d'être là le dimanche matin pour un petit rituel chrétien et ensuite d'oublier ce que Dieu veut, c'est d'ignorer non seulement sa sainteté, mais aussi, et voici d'en parler, derniers versets, les 4 derniers versets de ce psaume, sa gloire en tant que roi vainqueur. Et ça, c'est notre 3e point. Alors, sa gloire en tant que roi vainqueur. L'image que donnent ces derniers versets, ce n'est pas, comme dans d'autres psaumes, l'expérience d'un pèlerin, lui, qui entre dans la cité sainte de Jérusalem, qui va vers la demeure sainte au centre de la ville, là où Dieu est présent. Non, ici l'image c'est d'un roi qui fait sa propre entrée dans la ville de Jérusalem. Et de manière poétique, bien entendu, l'appel sonne à ce que toute la ville s'y prépare. Versets 7 et verset 9 répétés, « Porte, élevez vos linteaux !» Élevez-vous, portail éternel. que le roi de gloire fasse son entrée. Et donc, la question se pose, verset 8, et de nouveau répété au verset 10, qui est-ce ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros de la guerre. L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Le roi, c'est Dieu. Et notons-le bien, il est le roi vainqueur. Triomphant, il rentre du champ de bataille où il a mené une victoire. Et la première fois où on entend dans la Bible que Dieu est un guerrier, c'est dans le texte que nous avons vu à Pâques, Exode 15, là où on célébrait la victoire écrasante de l'Éternel sur les armées égyptiennes. Le message donc de ce psaume est clair. Ne soyez pas en rébellion contre ce Dieu. L'Éternel, le fort et le héros de la guerre. C'est inutile d'être en rébellion contre lui. Oui, peut-être pendant un petit temps, lors de nos 80 ans, il peut paraître chouette d'être libre des contraintes d'un Dieu qui est saint. Égypte, après tout, tenait les Israélites captifs pendant 400 ans, sans conséquence pendant ce temps-là. Mais ne confondons pas la patience de Dieu avec son absence. Non, le Dieu créateur est saint. L'Éternel ne tarde pas. Il vient en tant que roi vainqueur. Face à lui, d'ici très peu, chers amis, pour chacun d'entre nous, d'être rebelle devant lui aura l'air aussi ridicule comme un tout petit morceau de poussière face à la terre entière. Évidemment, le croyant en Christ lit ces versets et il ajoute une nouvelle couche à ce psaume, n'est-ce pas? Car nous savons que le roi de gloire a fait son entrée à Jérusalem il y a 2000 ans. On l'avait proclamé comme roi lors de son entrée, la semaine qui débutait la semaine de la Pâque. Mais une semaine plus tard, on l'avait cloué sur la croix. Il semblait que ce roi glorieux n'était pas aussi glorieux et vainqueur que cela. Ésaïe 53 nous disait que nous l'avons considéré comme frappé par Dieu et humilié. Mais merveille des merveilles, ce roi manifestait sa gloire au moment où il donnait sa vie comme un substitut pour nous des pécheurs à la croix. Il a pris la punition pour nos transgressions sur lui-même. Et ainsi, il accomplit le salut de tous ceux qui se tournent vers lui. Bien sûr, Dieu l'avait ressuscité le troisième jour. Il a vaincu tous les ennemis de Dieu, Satan, le péché, la mort. Qui donc est ce roi de gloire? Nous trouvons la paix avec lui grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi de gloire. Le psaume parle des portails éternels dans la ville sainte. Je pense que c'est un petit clin d'œil, ça anticipe la cité céleste qui descendra du ciel selon Apocalypse. La cité qu'attendait Abraham, la nouvelle Jérusalem. La cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'accès à cette ville céleste est réservé uniquement à ceux et à celles qui reconnaissent l'autorité du Dieu créateur. La sainteté de Dieu qui demande nos cœurs, des cœurs tournés vers Dieu, qui dans sa grâce nous accorde le salut et qui reconnaissent la gloire de Jésus-Christ en tant que roi vainqueur. Donne-nous la foi, chantaient Céline et Andreas, afin que nous soyons en sécurité. Mais il n'y a rien de plus sécurisant de connaître l'Éternel des armées, connaître l'amour de ce Dieu glorieux pour nous en Jésus-Christ. Connaître cela dépasse toute autre expérience de la vie. Ça dure pour l'éternité. nous attendons, nous dit Tite chapitre 2, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. C'est vrai qu'il y a encore bien des incertitudes pour nous, chacun d'entre nous, pendant cette période-ci, pendant même des mois à venir. Il y aura sûrement d'autres décès entre dans l'Église. La distanciation sociale continuera à rendre bizarre notre façon de fonctionner pendant un temps. Mais nous reposer sur la certitude de la connaissance de Dieu, cela nous pousse à annoncer, comme le psalmiste, qui est ce roi de gloire, notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Moi, je vous invite à prier, chers amis, avec moi. Oui, Seigneur, quelle joie de connaître la réponse à cette question. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur Jésus-Christ, le roi vainqueur, celui qui a donné sa vie pour que nous puissions te connaître, nous puissions avoir cette confiance devant toi. Et donne-nous, Seigneur, d'être ceux qui te donnent tout ce que nous avons, non pas juste une partie de ce que nous avons, mais tout ce que nous avons, parce que toi seul, Seigneur, tu en es digne. Merci pour ce que tu nous as appris aujourd'hui et donne-nous de vivre à la lumière de cette connaissance, et cela pour la gloire de ton nom. Amen.